Septième épisode. Haut les mains. Chapitre 1er. Les aveugles guitaristes. Rio Blas et Guasco avaient eu le visage brûlé par l'explosion d'une mine. On avait pu leur sauver la vie, mais ils étaient demeurés aveugles et atrocement défigurés. En pleine force, ils avaient à peine 35 ans, ils s'étaient trouvés du jour au lendemain acculés au suicide ou à la mendicité. Et finalement, ils avaient trouvé un moyen terme. Et, de prospecteurs, ils étaient devenus guitaristes ambulants. Leurs débuts furent modestes. Ils arrivaient dans un village ou dans un ranch à la tombée de la nuit et faisaient danser les femmes et les filles des cowboys en exécutant quelques-unes de ces vieilles habaneras mexicaines où se retrouve toute l'ardeur mélancolique, toute la tristesse passionnée de l'âme espagnole. On les payait de leur peine en leur donnant largement à manger et surtout à boire, en leur accordant une couverture et un lit de paille de maïs dans l'étable. Et ils se sentaient presque consolés de leur chagrin quand la fin d'un de leurs morceaux était saluée par des « Anda !» et des « Olé !» d'enthousiasme, scandés parfois par le crépitement d'un Browning dont quelques cow-boys mélomanes déchargeaient en l'air les six coups en guise d'applaudissement. Très rapidement, ils devinrent populaires sur toute la frontière de l'État du Texas. Parfois même, ils franchissaient le Rio del Norte pour aller jouer dans quelque hacienda du Mexique. Mais en général, ils restaient fidèles à la rive américaine. Au début, ils jouaient d'une façon quelconque, mais leur sens de la musique s'affina, se perfectionna. Aux airs les plus rebattus, ils ajoutaient une broderie d'originale fioriture, même ils improvisaient. L'âme sauvage et délicate de cette fruste population salua en eux ces artistes. Quand un propriétaire de ranch mariait un de ses enfants, célébrait la vente avantageuse d'un lot de chevaux ou donnait une fête quelconque, Rio Blas et Guasco étaient appelés. À table, on les mettait à la place d'honneur. On les gardait tant qu'il leur plaisait de rester, et on ne les renvoyait jamais que les poches bien garnies. Ce soir-là, ils revenaient de chez le seigneur Velasco, un ranchero, propriétaire d'un troupeau de 50 000 têtes, un des plus riches de la région, chez lequel ils avaient passé 3 jours. Cheminant paisiblement au clair de lune, ils regagnaient la petite ville de Presidio, distante d'environ 4 000. On leur avait offert de les reconduire dans un car. Ils avaient préféré faire la route à pied en suivant les rails d'une voie de chemin de fer qui ne servait qu'une ou deux fois chaque mois au transport des chevaux. Leurs instruments en bandoulière, de solides bâtons en main, les deux aveugles marchaient allègrement, tout joyeux d'une 20aine de dollars qu'ils devaient à la munificence du seigneur Velasco. L'atmosphère était d'une exquise douceur. La brise rafraîchie par la rosée était parfumée par l'odeur puissante des térébintes. Le silence de cette belle nuit n'était troublé que par le bruissement des insectes et le mugissement mélancolique des immenses troupeaux errant en liberté dans la pampa. De temps en temps, Rio Blas faisait sonner de son bâton l'acier des rails et s'assurait ainsi qu'il était toujours dans la bonne route. Brusquement, et pour ainsi dire d'un même mouvement, les deux aveugles s'arrêtèrent et tendirent l'oreille. « Tu entends ? » murmura Rio Blas en se penchant vers le sol. « Il y a certainement un grand troupeau de chevaux à peu de distance de nous. »« Tu es sûr que ce sont des chevaux ?» répondit Guasco. « Impossible de s'y tromper. Écoute-toi-même. Les bœufs ne frappent pas la terre de cette façon. D'où peuvent-ils venir ? » ?»« Sans nul doute du ranch de Stebbing l'Américain, et on les conduit à Presidio pour les embarquer à destination de la Nouvelle-Orléans. »« Alors ? » s'écria Guasco avec inquiétude. « Nous sommes sur leur chemin, et ce n'est pas rassurant. » Les deux aveugles savaient par expérience ce qu'est le passage de 2 ou 3 000 animaux à peu près sauvages que chassent devant eux des cow-boys armés de lasso. Rien ne résiste à une pareille trompe. Le moins qui put arriver aux pauvres musiciens était d'être foulés aux pieds et d'avoir la poitrine défoncée à coups de sabot. Quelques minutes s'écoulèrent. Le bruit se rapprochait avec une rapidité inquiétante. La terre durcie par le soleil résonnait au loin sous le sabot des mustangs comme à l'approche de quelque cataclysme. « Gagnons un des bois qui se trouve sur la gauche, » proposa Rio Blas. « nous nous mettrons à l'abri derrière les troncs d'arbres. Là, nous serons en sûreté. Mais il faut nous hâter. Le troupeau est maintenant à moins d'un mille. » Sans répondre, Guasco prit le bras de son compagnon et tous deux se mirent à courir du côté où ils entendaient le murmure des feuillages agités par la brise. Mais ce ne fut qu'au bout d'une demi-heure d'une course folle qu'ils atteignirent les premiers arbres du bois. Un bois composé de ces cèdres et de ces térébintes qui couvrent encore une partie de la Géorgie, de la Floride et du Texas. Abrités par les vastes troncs, ils reprirent haleine. Le troupeau de chevaux passa à une faible distance d'eux avec le bruit d'un ouragan. Puis, petit à petit, la campagne rentra dans le silence. « Nous l'avons échappé belle !» murmura Guasco en s'épongeant le front. « Il s'agit maintenant, grommela Rio Blas, de retrouver notre chemin. » « Ce sera facile. Tout à l'heure, nous avons marché contre le vent. »« En es-tu bien sûr ? Il me semble à moi, au contraire, que nous avons marché dans le sens de la brise. » Après une courte discussion, les deux aveugles se remirent en route. Mais au bout d'une centaine de pas, ils trouvèrent un autre bois. Ils revinrent en arrière, marchèrent pendant un quart d'heure en terrain découvert, puis, de nouveau, se heurtèrent à des touffes de palmiers nains qui leur indiquaient les approches d'une forêt. « Nous sommes égarés, » déclara tristement Guasco. « C'est malheureusement vrai, » murmura Rio Blas. « Essayons encore. Nous ne devons pourtant pas être très loin de la voie du chemin de fer. » En cela, ils se trompaient. Dans leur fuite précipitée, son compagnon et lui s'étaient éloignés des rails de plus d'un demi-mille, et dans leur vaine tentative pour retrouver leur chemin, ils s'étaient avancés de plus en plus vers le sud-ouest, dans une contrée très boisée où il n'existait pas de sentier frayé. Ils auraient passé gaiement leur nuit à la Belle Étoile, ce qui leur était advenu maintes fois au cours de leur existence aventureuse, mais ils commençaient à se sentir fatigués. En outre, on les attendait le lendemain aux noces de la fille Naranjero, et ils commençaient à craindre de ne pouvoir y arriver en temps voulu. S'encourageant mutuellement, ils se mirent à marcher à l'aventure, comptant toujours sur un heureux hasard. Ils étaient revenus 20 fois sur leur propre piste. Ils n'avaient plus la moindre notion de l'endroit où ils pouvaient se trouver. « Je suis accablé de fatigue, » déclara Rio Blas. « Il m'est impossible d'aller plus loin. »« Il me semble entendre l'aboiement d'un chien pas très loin d'ici. Je vais aller à la découverte. »« Ne m'abandonne pas !» s'écria Rio Blas en se cramponnant désespérément au bras de son camarade. « Ne nous séparons pas, sans quoi nous ne pourrions plus nous retrouver. » Guasco se rendit à ses raisons, et tous deux se dirigèrent lentement du côté d'où partaient les aboiements. Ils sentaient maintenant sous leurs pieds le sol d'un sentier battu ou d'une route, et l'espoir leur était revenu. Leur découragement s'était envolé comme par magie. Ils se trouvèrent bientôt devant une muraille de planches qui était celle d'une maison. En tâtonnant, ils en firent le tour jusqu'à ce qu'ils eussent découvert une porte. Alors, ils se mirent à frapper dedans à coups de pied et à coups de poing. Personne ne leur répondit. La maison pourtant était habitée, car ils distinguèrent une voix d'homme mêlée aux aboiements du chien. Ils continuèrent à cogner de toutes leurs forces en faisant un infernal vacarme. Cette insistance eut un résultat auquel ils ne s'attendaient guère. Une petite fenêtre s'ouvrit brusquement au-dessus de leur tête, 5 ou 6 coups de revolver éclatèrent dans le silence de la nuit et des balles sifflèrent aux oreilles des malchanceux aveugles. En même temps, une voix d'homme criait avec colère en anglais. « Passez votre chemin, coquin ! Il n'y a rien à voler ici !» Puis, la fenêtre se referma. Les aveugles avaient eu grand peur. « On nous prend pour des bandits !» fit tristement Guasco. « Il ne nous reste plus qu'à nous en aller. » « Ce n'est pas mon avis, » dit Rio Blas, qui était d'un caractère très opiniâtre. « Nous avons un moyen de nous faire connaître pour donner de gens. Nous sommes estimés et aimés dans toute la région. » Je suis sûr que quand le propriétaire de cette maison saura à qui il a affaire, il s'empressera d'ouvrir. Mais quelle est ton idée? Nous allons tout simplement exécuter un de nos airs les plus en vogue. Tu verras que ce moyen est infaillible. Essayons toujours. Les deux musiciens saisirent leur guitare et se mirent à jouer avec toute la virtuosité dont ils étaient capables la célèbre habanera mexicaine sous les jasmins en fleurs. Rio Blas ne s'était pas trompé. Au bout de quelques minutes, les aboiements du chien se turent. La porte s'ouvrit toute grande, et une voix bourrue mais cordiale invita les deux aveugles à pénétrer dans l'intérieur de la maison. Ben, il fallait le dire que c'était vous. J'aurais ouvert tout de suite, fit l'homme.
Nous avons bien essayé, répliqua Guasco, mais vous avez commencé par nous tirer dessus.
Ben, dame, à cette heure-ci, vous savez, et dans un endroit aussi désert, il est bon de prendre l'offensive sans attendre d'avoir reçu une balle dans la peau.
Excusez-nous, mais nous nous sommes égarés en revenant de la hacienda du seigneur Velasco.
Sommes-nous loin de Presidio?
Vous en êtes à moins d'un mille.
Cette réponse surprit beaucoup les aveugles, qui se figuraient être au moins à 3 000 de la ville. Finalement, ils se réjouirent de s'être ainsi rapprochés de leur but sans s'en douter. De cette façon, ils pourraient être revenus à Presidio encore assez à temps pour se rendre à la noce où ils étaient attendus. Cependant, leur hôte se montrait maintenant aussi plein de prévenance qu'il avait été tout d'abord peu accueillant. Il ouvrit en leur honneur une boîte de corned beef et leur versa à chacun un gobelet de cette brutale eau-de-vie de canne à sucre, la cagna, dont, malgré l'interdiction de l'alcool, le débit n'a nullement diminué sur la frontière du Texas. Ragaillardis par ce lynch, les aveugles déclarèrent d'une même voix que leur fatigue avait disparu et qu'ils étaient prêts à se remettre en route.
« Puisque vous vous rendez à Presidio, dit alors leur hôte mystérieux, vous pouvez me rendre un grand service, service que je rétribuerai d'ailleurs généreusement. »
Les aveugles protestèrent de leur dévouement et de leur bonne volonté.
« Voici de quoi il s'agit, répliqua l'homme. Un de mes cousins vient d'avoir les côtes enfoncées d'un coup de pied de cheval. Il faudrait m'aider à le transporter jusqu'à l'hôpital de Presidio. Un mille est bientôt fait et je vous donnerai à chacun $5. »
Les aveugles eurent un moment d'hésitation. Puis, la cordialité de leur hôte, l'offre alléchante de $5, les décidèrent.
« C'est entendu, dit Guasco. Avez-vous au moins ce qu'il faut ? J'ai une civière dont vous prendrez chacun l'un des bouts. »
« Vous pourrez sans doute, observa Rio Blas, relayer de temps en temps l'un ou l'autre de nous deux. »
« Eh, malheureusement, non. J'ai eu moi-même le bras cassé le mois dernier et je ne puis encore m'en servir. Mais je viendrai avec vous en cas de mauvaise rencontre. Voulez-vous que je vous donne tout de suite les $5 ?»«
Vous pourrez aussi bien nous les donner quand nous serons arrivés. » »«
Non, je vais vous les donner maintenant. »
Et il mit dans la main de chacun des aveugles 5 belles pièces d'argent. Rio Blas et Guasco, qui avaient craint un moment qu'on ne leur donnât une banque-note, dont il leur aurait été difficile de contrôler la valeur, la fausse monnaie est très répandue au Texas, furent tout à fait gagnés par les façons de leur hôte. Après avoir absorbé une dernière rasade de cagna, ils saisirent chacun les deux poignées du brancard, où l'on se mit en chemin assez lentement, car le blessé était lourd. L'homme, cependant, les encourageait de toutes les façons. Il leur promit même $2 de supplément quand on serait arrivé à Presidio.
« Vous ne savez pas quel important service vous me rendez, » leur répétait-il. « Sans vous, mon cousin aurait peut-être succombé faute de soins, tandis que bien soigné à l'hôpital, il s'en tirera. »
On franchit sans incident la distance d'un 500 milles. Mais alors, le pas cadencé de plusieurs chevaux se fit entendre à une faible distance. Ils avançaient assez lentement. « Rien qu'au rythme de leurs pas, » déclara Guasco qui marchait en avant, « je devine que chaque cheval a son cavalier. »
« Ce sont, sans nul doute, les Rangers, » dit Rio Blas.
« Très probablement, » balbutia l'inconnu.
« Je vais en avant leur dire un mot. »
Et l'homme s'éloigna précipitamment. Les Rangers constituent un corps de police monté que l'on ne trouve guère que sur la frontière mexicaine. Dans ce pays où pullulent les bandits de tout genre, assassins, voleurs de bestiaux, faux-monnayeurs, les Rangers rendent d'inappréciables services. Choisis parmi les cowboys les plus robustes et les plus lestes, pourvus d'excellents chevaux, et généralement commandés par quelques vieux coureurs de prairie promus au rang de capitaine, ils se transportent avec la rapidité de l'éclair à l'endroit où l'on a besoin d'eux. Il est rare qu'un malfaiteur leur échappe. Pour l'atteindre, ils feront parfois 50 000 sans débrider. D'ailleurs, leurs procédés sont expéditifs. Si l'homme qu'ils doivent arrêter ne lève pas les mains assez promptement au cri de « Hands up », il tombe, percé de plusieurs balles, avant d'avoir eu le temps de parlementer. Dans tout le Texas, les Rangers sont redoutés et respectés. Le capitaine de la troupe, qui s'avançait à la rencontre des deux aveugles, était un certain Burton, dont la perspicacité aussi bien que la farouche énergie était légendaire. À la lueur éblouissante du clair de lune, il avait de très loin reconnu les deux aveugles guitaristes, qu'il avait en grande estime. Mais il avait été fort surpris de voir l'homme qui les accompagnait se perdre dans le sous-bois sitôt qu'il avait pu reconnaître la police montée. « Voilà qui est bizarre !» fit-il en sifflotant. « Puis, il faut que je voie ce qu'il y a sur cette civière qui paraît si lourde. Est-ce que nos braves aveugles feraient la contrebande ?»« Halte, vous autres » commanda-t-il à ses hommes. D'un bond, il avait sauté à terre. « Bonsoir, Guasco, » dit-il d'un ton plein de cordialité. « Bonsoir, Yoblas. Où diable allez-vous, à pareille heure ?»« À Presidio, capitaine, » répondit ingénument Yoblas.
Bah, « Vous y tournez le dos.
Vous en êtes à près de 4000 et vous marchez droit vers le Rio del Norte. » Alors on s'est moqué de nous, s'écria Guasco avec amertume. Qui cela, on? L'homme qui était avec nous et qui nous a prié de porter son cousin jusqu'à l'hôpital. Il est parti il n'y a qu'un instant pour vous parler.
Personne n'est venu me parler.
J'ai vu seulement un homme qui s'enfuyait vers les bois. Les aveugles demeuraient muets de surprise, consternés et furieux qu'on eût ainsi abusé de leur bonne foi. Le capitaine Burton était très intrigué.
« Ah, il faut que cette histoire s'éclaircisse !» déclara-t-il rudement.
« Et d'abord, voyons !» D'un geste brusque, il avait relevé la couverture qui dissimulait le visage du blessé. Une face immobile et blême apparut. Les paupières étaient closes, les lèvres exsangues et le front barbouillé de sang.
« Misérable ! » s'écria-t-il dans le premier élan de la surprise et de la colère. « Mais c'est un cadavre que vous portez ! Vous alliez sans doute le jeter dans le Rio del Norte qui coule à 100 pas d'ici !»
Santa Maria, bégaya Guasco d'une voix étranglée. Peut-on nous accuser d'un crime pareil, nous qui sommes aussi innocents que l'enfant qui vient de naître?
Il y avait tant de sincère indignation dans l'accent du pauvre aveugle que le capitaine Burton hésita.
Nous verrons cela, grommela-t-il. Vous avez peut-être été, sans le savoir, les complices d'un assassin.
Le capitaine des Rangers s'était de nouveau baissé vers le cadavre, mais presque aussitôt, il se releva en donnant tous les signes d'une surprise arrivée au paroxysme le plus aigu.
« Carayo ! » s'exclama-t-il. « Aussi vrai que je m'appelle William Burton, ce cadavre est celui de Gérard Perkin, le sous-directeur de la Mexican Mining Bank, l'auteur du vol de 2 millions de dollars commis il y a quelques heures à peine. »
Tumultueusement, les Rangers avaient sauté en bas de leur monture. Sans la moindre hésitation, ils identifièrent Gérard Perkin, que tout le monde connaissait à Presidio. Quant aux aveugles, ils étaient atterrés, tellement émus qu'ils étaient incapables de prononcer une parole. Les policiers, de leur côté, étaient presque aussi stupéfaits de la tournure incompréhensible et extraordinaire que présentait cette aventure. Tous, pendant une longue minute, demeurèrent silencieux, en proie à une secrète inquiétude. « Voyons d'abord si Perkin est bien mort, » dit tout à coup le capitaine Burton. Il vit encore, fit-il après un rapide examen. « Mais il n'en vaut guère mieux. Il a une balle derrière l'oreille. »«
Ah, s'il pouvait parler !» balbutia Guasco. « Il dirait que nous sommes innocents. »«
Ah, je crains fort qu'il ne reprenne pas connaissance, » fit Burton. « Avec une blessure de ce genre, je ne lui donne pas 3 heures à vivre. »«
Alors, c'est nous qui serons accusés ?» demanda Rio Blas avec angoisse.
« Je ne dis pas cela, mais je suis cependant obligé de vous emmener en prison. »
Les deux aveugles étaient dans un tel état de prostration d'épouvante qu'ils ne trouvèrent rien à répondre. On les fit monter en croupe de 2 Rangers. Le blessé fut placé dans une charrette qu'un cavalier était allé chercher, à franc étrier, à la hacienda la plus proche. Et le détachement tout entier reprit aussi vite que possible le chemin de la ville de Presidio. Auparavant, une battue avait été rapidement effectuée dans les bois avoisinants. Mais on n'avait retrouvé aucune trace du mystérieux assassin qui, après avoir tué le sous-directeur de la banque, sans doute pour lui arracher le produit du vol, avait si ingénieusement utilisé comme complice les 2 aveugles que le hasard lui avait envoyés. Chapitre 2. L'obscurité complète. À Presidio, comme dans la plupart des villes frontières du Texas, la fameuse loi de la tempérance n'a jamais pu être appliquée. Dans toutes les rues, des bars, des bodegas, étalent ouvertement des rangées de flacons pleines d'alcool multicolore et convainc le passant à savourer toute la gamme de ces cocktails incendiaires pour lesquels les Américains ont inventé des noms si pittoresques. Milk Mother, un lait maternel, et Widow Smile, un sourire de veuve, un Hay Opener, un ouvreur-dieu, a corpse survivor, un éveilleur de cadavres. Sans oublier le bonnet de nuit, le clou de cercueil et l'huître de prairie,
composé d'une cuillerée de vinaigre, d'un jaune d'œuf cru et d'une pincée de poivre. Ces breuvages infernaux coulaient à plein bord sur les comptoirs de zinc et de toile cirée autour desquels se pressait une foule étrangement bigarrée. Des gauchos mexicains, aux larges pantalons à franges, ornés de chaque côté d'une rangée de gros boutons de nacre, aux sombreros enrichis de plaques d'or et d'argent, y coudoyaient des cowboys yankees aux vastes feutres et aux ceintures de laine rouges ou bleues. Des mestizos aux lèvres violettes, au nez écrasé, pauvrement vêtus de cotonnade. Des mineurs et des prospecteurs à la face hâve et maigre, si recuite par le soleil qu'elle avait pris le ton du cuivre rouge. On y trouvait encore quelques Chinois, des Anglais cossus, coiffés de panamas et habillés de flanelle, des Irlandais déguenillés. Enfin, quelques Italiennes, parées de mouchoirs de soie de couleur vive, vendaient des glaces et des citronnades dans de petites voitures à bras bariolées de rouge et d'oranger. Dans tous les groupes, on discutait avec animation. Ce jour-là était un dimanche, et c'était la veille au soir qu'un vol de 2 millions de dollars avait été commis dans des circonstances particulièrement mystérieuses et troublantes à la succursale de la Mexican Mining Bank. Cet événement avait mis en révolution la petite ville. On commentait avec animation la nouvelle de l'arrestation des deux guitaristes aveugles et chacun prenait leur défense avec chaleur. Le rassemblement qui s'était formé en face de la maison de banque, le seul édifice de Presidio qui fut entièrement construit en briques et en pierre de taille, devenait plus houleux de minute en minute, lorsque l'appel strident d'une sirène se fit entendre à l'extrémité de la rue. La foule s'écarta pour livrer passage à une grande auto dont la carrosserie était souillée d'une épaisse couche de poussière. La voiture stoppa. Trois personnes en descendirent, et à la grande surprise des curieux, le directeur de la succursale, M. Ned Markham, alla respectueusement à leur rencontre, et, avec toutes sortes de marques de déférence, les introduisit dans l'intérieur de l'établissement. Le bruit se répandit bientôt que l'auto appartenait à M. Robinson, le richissime banquier de San Francisco, directeur général et propriétaire de la plus grosse part d'actions de la Mexican Mining Bank. On ajoutait qu'il était accompagné du détective Todd Marvel, célèbre dans toute l'Amérique par ses excentricités et ses extraordinaires talents de policier. Le renseignement était exact. M. Robinson, alors en villégiature à Easy's Lodge, dans la Louisiane, avait été prévenu par dépêche la veille au soir et s'était hâté d'accourir, accompagné de son ami John Jarvis et du secrétaire de ce dernier, le Canadien Floridor Kennell. Le directeur de la succursale, M. Ned Markham, avait fait entrer les trois visiteurs dans son cabinet. Il paraissait très ennuyé, mais parfaitement calme. « Je suis fâché de ce qui arrive, » déclara-t-il à M. Robinson. « Mais véritablement, je n'ai rien à me reprocher sous le rapport de la vigilance. » Ned Markham, un quadragénaire sec, nerveux, d'une activité dévorante, passait pour un des plus habiles hommes d'affaires de la région. On citait de lui des spéculations d'une audace et d'une envergure inouïe, et qui, presque toujours, avaient été couronnées de succès. Il soutint sans la moindre gêne le regard inquisiteur du banquier et des deux détectives. « Je comprends néanmoins, ajouta-t-il en se tournant vers M. Robinson, qu'après un pareil accident, vous soyez en droit de me retirer votre confiance, et je suis prêt à vous offrir ma démission. » « Il n'est pas question de cela, » répondit gravement le banquier. « Si vous n'avez aucune négligence à vous reprocher, je ne vois pas pourquoi je me priverai de vos services. » « D'ailleurs, » fit remarquer John Jarvis, « il est très possible que nous retrouvions les voleurs et l'argent volé. »« Je le souhaite de tout mon cœur, » reprit M. Markham. « Je vais donc vous raconter le plus exactement possible dans quelles circonstances le vol s'est produit. » « Les transactions ont été très actives ce mois-ci, surtout avec le Mexique. Nous avions en retard pas mal de besognes qu'il fallait expédier avant l'échéance qui tombe dans 3 jours. Je décidai, comme je le fais toujours en pareil cas, que le personnel veillerait jusqu'à 20 heures et plus tard s'il était nécessaire. À 18 heures, les 15 employés de la banque eurent une demi-heure pour aller manger un sandwich et ils se remirent au travail aussitôt après. Quand ils furent de retour, j'allai moi-même lyncher à l'hôtel de Géorgie où je prends mes repas et qui est situé de l'autre côté de la rue à 2 pas d'ici. « Combien de temps dura votre absence ?» demanda John Jarvis. « 30 minutes au plus. Quand je rentrai, le vol venait de s'accomplir. Une main inconnue avait éteint l'électricité, et quand au bout de 5 minutes la lumière était revenue, les 2 millions de dollars en banknotes ficelés dans un sac de cuir avaient disparu. Comme vous pouvez le supposer, je fis fermer les portes et les employés tinrent eux-mêmes à me faire vérifier le contenu de leurs poches. Je ne trouvais rien. Et j'en suis encore à me demander comment l'on a pu, dans un si court espace de temps, subtiliser un paquet d'aussi gros volume. « Combien y a-t-il de portes à la banque ?» demanda John Jarvis. « 2 seulement, la porte du public et une porte plus petite, qui aboutit à la place du marché et donne accès à un couloir où se trouve la pièce où nous sommes en ce moment, le cabinet du sous-directeur et les archives. C'est dans ce couloir qu'est installé le compteur qui commande l'éclairage de la banque. Le voleur, qui est certainement très au courant des habitudes de la maison, a dû passer par cette petite porte, fermer le compteur, s'emparer des banknotes et disparaître par le même chemin. Je vais vous poser encore 2 questions. Je voudrais savoir qui a la clé de la petite porte de la place du marché, et ensuite, en quel endroit se trouvaient les banknotes quand elles ont disparu. Il y a 2 clés de la petite porte. J'en possède une, et Gérard Perquin, le sous-directeur, en possède une autre. C'est sur lui d'ailleurs que mes soupçons, et cela à bon escient, sont tombés tout d'abord. Au moment du vol, le coffre-fort était ouvert et le caissier, à quelques pas de là, vérifiait un compte sur le bureau d'un de ses collègues. Le filou n'a eu qu'à allonger la main pour s'emparer du précieux sac. « Voilà en effet, murmura John Jarvis, une histoire assez extraordinaire. Vous croyez donc, monsieur Markham, que le coupable est Gérard Perquin ? La preuve en est faite maintenant. On vient de le retrouver mortellement blessé d'une balle à la tête à plusieurs milles de Presidio. À l'heure qu'il est, il agonise à l'hôpital. Mais l'on a précisément découvert, dissimulé sous ses vêtements, le sac de cuir qui renfermait les banknotes. Perquin était le seul employé qui fut absent au moment du vol. Il m'avait demandé de le dispenser de veiller parce qu'il devait prendre le train pour Brownsville, à 20 heures. Et lui seul avait la clé de la petite porte. Sauf moi, bien entendu. Et sur un geste du détective, M. Markham ajouta. Pour mon propre compte, car il est bon de tout expliquer clairement, pendant que le vol se commettait, je mangeais paisiblement une tranche de roast beef au Pickles dans la salle du restaurant de l'hôtel de Géorgie, comme pourront l'attester de nombreux témoins. Autre détail qui a son importance, non seulement, comme je vous l'ai dit, tous les employés ont été fouillés, mais toutes les pièces de l'établissement et tous les meubles que renferme chacune d'elles ont été minutieusement visitées au cas où l'auteur du larcin aurait caché provisoirement son butin dans une de ces pièces. Vous reste-t-il d'autres questions à me poser ? Ce que je ne m'explique pas, fit le détective, c'est qu'on n'ait pas immédiatement poursuivi Gérard Perquin. Il me semble qu'avec un peu de diligence, on aurait pu le rattraper encore nanti des banknotes. On a fait ce qu'on a pu, mais on a perdu un temps précieux à perquisitionner dans l'intérieur de la banque et à répondre à l'interrogatoire du coroner. Cependant, des policemen se sont rendus à son domicile. Ils n'y avaient pas paru de la journée. Ils se sont rendus à la gare, puis au bureau de la compagnie de navigation du Rio del Norte, et ne l'ont pas vu. Comme l'événement l'a prouvé, il avait gagné directement la campagne où sans doute l'attendaient les complices qui l'ont ensuite assassiné et dépouillé. Et personne ne l'avait remarqué avec le paquet qu'il portait ? Personne jusqu'ici n'est venu apporter son témoignage à ce sujet. Mais l'enquête n'est pas close. Croyez-vous, interrompit M. Rabington, qu'une nuit passée en auto et le vol de 2 millions de dollars dont il était victime rendait de fortes méchantes humeurs, croyez-vous que nous retrouvions les banknotes ? Je ne puis encore rien affirmer, répondit John Jarvis. Et il est fort à craindre que les bandits qui ont assassiné Perquin n'aient passé le Rio del Norte et ne soient en sûreté au Mexique avec leur butin. Monsieur Rabington tombait de sommeil. Monsieur Markham alla lui-même l'installer dans la meilleure chambre de l'hôtel de Géorgie pendant que John Jarvis et Floridor se rendaient chez le coroner. Ce magistrat ne leur apprit aucun fait nouveau et ne put que leur montrer le sac de cuir taché de sang qui avait été saisi sur le blessé. Les 2 détectives se rendirent ensuite à l'hôpital, installés dans un vaste baraquement en planches à quelque distance de la ville. Ils furent reçus par le docteur Toribio, un médecin mulâtre, mexicain d'origine, auquel d'énormes besicles vertes, un nez long et pointu et un teint couleur de safran, donnaient l'aspect le plus bizarre. Tout pénétré du rôle important qu'il jouait, en donnant ses soins à l'auteur du vol de 2 millions de dollars, il reçut les visiteurs avec empressement. « Je réponds de l'avis du blessé, » dit-il solennellement. John Jarvis eut un geste de surprise.
« Je croyais, fit-il, que Gérard Perkin avait reçu une balle dans la tête et qu'il était mortellement atteint. »
On aurait pu le croire. La balle est allée se loger derrière l'oreille dans l'eau du rocher, mais j'ai pu l'extraire, empêcher l'hémorragie de se porter à l'intérieur de la boîte crânienne, et bien qu'il soit dans le coma, je suis sûr de le sauver.
Peut-on le voir ?
Très facilement.
Le docteur Toribio conduisit ses visiteurs dans une cahute séparée du reste des bâtiments. Là, gisait sur un lit de sangle entouré d'une moustiquaire, le sous-directeur de la Mexican Mining Bank. Les yeux clos, le visage d'une pâleur mortelle. La physionomie du blessé, un jeune homme d'une trentaine d'années, était intelligente et sympathique, un peu naïve même. Floridor ne put s'empêcher de remarquer qu'il ne donnait nullement l'impression du bandit de haute volée qu'il pouvait être.
« Bah !» dit le docteur Toribio.
« Les apparences sont souvent trompeuses. Rien ne ressemble plus à un honnête homme qu'un coquin. »«
Qu'en croyez-vous qu'il soit en état de parler ?» demanda John Jarvis.
« Pas avant demain, sans doute. Et encore, il sera si faible qu'il ne pourra pas dire grand-chose. »«
Avez-vous conservé ses vêtements ?» demanda encore John Jarvis.
« Ils sont là, mais vous n'y trouverez rien d'intéressant. La police a pris tout ce qui se trouvait dans ses poches. »«
Avait-il beaucoup d'argent sur lui ?»«
200 ou 300 dollars, tout au plus. »«
Ce n'est guère.
Je vais malgré tout vous demander la permission d'examiner les vêtements. »
Le docteur Toribio présenta au détective un complet de coutil à peu près neuf, mais les poches en avaient été retournées, et John Jarvis allait le rejeter sans avoir rien trouvé, lorsqu'il sentit une feuille de papier qui s'était glissée entre la doublure et l'étoffe du gilet. Il retira la feuille avec précaution et la fit disparaître dans sa poche sans que le docteur s'en fût aperçu. Le complet était un vêtement de confection. Les poches étaient à peine cousues avec du mauvais fil à bâtir. C'est ce qui expliquait que le papier eût pu glisser dans la doublure.
« Vous aviez raison, docteur, » dit tranquillement le détective. « Ce vêtement ne renferme rien d'intéressant. Je vais me retirer en vous remerciant de votre grande obligeance, mais auparavant, je vous demanderai encore une faveur. »«
Tout à votre disposition. » »«
Je m'intéresse tout particulièrement à ce blessé. Vous me permettrez, je l'espère, de laisser ici, en guise d'infirmier, mon collaborateur, M. Floridor Kennel. » Il a fait quelques études de médecine et il exécutera scrupuleusement toutes vos prescriptions.
L'hôpital de Presidio était subventionné par la Mexican Mining Bank. Le docteur Toribio n'avait rien à refuser au fameux détective ami de M. Robinson. Il s'inclina devant la demande qui lui était faite, bien que l'intrusion de Floridor dans le domaine médical où il régnait en despote ne lui sourit qu'à moitié. Le Canadien s'entretint quelques minutes à voix basse avec John Jarvis, puis tous deux se séparèrent. Floridor pour revêtir une longue blouse d'amphithéâtre et s'installer au chevet du blessé, John Jarvis pour se rendre à la prison où étaient détenus Rio Blas et Guasco. Chemin faisant, il examina le papier trouvé dans le gilet de Perkin et sur lequel étaient tracées quelques lignes au crayon. Il lut. « Je n'ai pas pu venir ce soir. Rendez-vous d'urgence à la villa dès que vous aurez reçu ce mot. Elle. »
« C'est une écriture de femme, » se dit le détective.
« Évidemment, Perkin a dû être attiré dans un guet-apens par la « L » mystérieuse du billet. Il y a là un fait intéressant. » Les deux aveugles ne racontèrent au détective que ce qu'ils savaient déjà. Et touchés de la situation des pauvres diables, il leur promit de les faire remettre en liberté le jour même. Le seul détail intéressant qu'ils lui apprirent, c'est que l'homme qui avait trouvé le moyen de faire d'eux ses complices devait être de petite taille. Et ils se firent fort de le reconnaître à la voix si jamais il se retrouvait en sa présence, ce qui, d'ailleurs, n'était guère probable. John Jarvis regagna l'hôtel de Géorgie. Il mourait littéralement de faim. Et en apprenant que M. Robinson dormait encore, il se décida à déjeuner sans lui. Il passa dans la salle à manger où un maître d'hôtel lui apporta un menu imprimé en lettres d'or et formant plusieurs pages. L'hôtel de Géorgie, le seul logeable qu'il y eut à Presidio, avait des prétentions à passer pour un palace, et les cow-boys et les prospecteurs le regardaient comme tel. Y manger était considéré par eux comme le comble de l'élégance et du raffinement.
Voulez-vous, dit le maître d'hôtel, le même menu que celui qui fut servi le 15 du mois dernier au roi d'Angleterre?
Non, dit John Jarvis. Le menu du banquet offert au roi d'Italie par la ville de Rome.
Non, répondit encore le détective, qui ne put s'empêcher de sourire. Donnez-moi tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai entendu dire qu'il y a de magnifiques saumons dans le Rio del Norte. Alors nous mettons des côtelettes de saumon à la plénipotentiaire.
Mettez simplement une tranche de saumon grillé avec du beurre frais et des citrons, une tranche de filet de bœuf et des fruits.
Pendant qu'il mangeait de bon appétit, John Jarvis lia conversation avec le maître d'hôtel, un Irlandais du nom de Sullivan, au superbe favori roux. Et celui-ci, sans qu'on le questionnât, apprit au détective tout ce qu'il désirait savoir. L'Irlandais connaissait la plupart des employés de la banque, mais il avait en particulière estime M. Ned Markham, son client attitré.
« Que pauvre homme !» déclara Sullivan. « Il était là, bien tranquille hier soir, à sa table, pendant qu'on était en train de le voler. Il n'a pourtant pas mis longtemps à manger, mais cela a suffi aux bandits pour faire leur coup. »
« Et il n'a pas quitté sa table pendant qu'il dînait ?» demanda astucieusement John Jarvis.
« Il s'est juste levé pour aller téléphoner, mais il est revenu presque aussitôt. »
« Et où demeure-t-il, ce cher Monsieur Markham ? J'ai oublié de le lui demander, et je vais probablement avoir besoin de le voir. »
« Il n'habite pas la ville même. Il s'est fait construire un très beau cottage à 3 000 de Presidio. Mais avec son auto, cette distance ne compte pas. Il en a pour 10 minutes. Comme nous n'avons pas de garage, sa voiture reste parfois des journées entières en face de l'hôtel. Tenez, d'ailleurs, la voilà. »
Par la fenêtre grande ouverte, le détective aperçut une 60 chevaux au châssis allongé, au capot effilé comme une torpille, et qui ressemblait beaucoup plus à une voiture de course qu'à la bourgeoise limousine d'un directeur de banque.
« Voilà qui est singulier, » songea-t-il.
Et il reprit à haute voix. « Et on ne la lui vole pas ?»«
Elle est toujours retenue par une chaîne, puis j'y fais attention. D'ailleurs, M. Markham est tellement connu et aimé dans le pays que personne ne s'aviserait de toucher à sa voiture. » Le coupable serait vite dénoncé. Il n'y a pas tant d'auto que cela dans la région.
« Ah, je vois !» fit le détective en riant, « qu'une auto est plus facile à conserver dans ce pays qu'un troupeau de chevaux. »«
Et même qu'un gros paquet de banknotes !» fit malicieusement l'Irlandais.
« Et il est marié, Monsieur Markham ?»«
Non, il est veuf. Il vit avec sa fille, Miss Lillian, qui est une vraie beauté. »
John Jarvis tressaillit. Le mystérieux billet trouvé par lui portait pour signature un L. Lillian Markham aurait-elle été mêlée au drame sanglant dont il cherchait à expliquer l'énigme? Tout à coup, une idée lui vint. Si l'auto de Markham était là, c'est que celui-ci était encore à la banque. Pourquoi ne pas aller jusqu'à la villa où, à 7 heures de la journée, Miss Lillian était certainement seule? De cette façon, il saurait tout de suite si c'était elle la signataire du fameux billet. Il s'excuserait comme il pourrait de cette indiscrète visite. Muni des renseignements fournis par Sullivan, John Jarvis remonta en auto, et après un court trajet à travers la campagne admirablement cultivée qui entoure Presidio, il fit halte en face du cottage de M. Markham. Avec ses toits en terrasse, ses murs blanchis à la chaux, ses vérandas protégées contre l'ardeur du soleil par les guirlandes verdoyantes des jasmins, des géraniums et des vaniliers, c'était une délicieuse habitation. D'épaisses haies de grenadiers et de cactus entouraient un jardin planté de bananiers, d'orangers et de palmiers, à travers lequel coulait un ruisseau d'eau vive qui, un peu plus loin, allait se perdre dans le Rio del Norte. Un vieil Indien introduisit le détective dans un petit salon meublé de rocking chairs où des ventilateurs électriques entretenaient une fraîcheur exquise. Une tablette de marbre supportait les alcaras de terre rouge emperlées de rosée. Des bouteilles de champagne dans leurs seaux d'argent remplis de glace et des pyramides d'ananas, de citrons, de goyaves et d'autres fruits du pays. Miss Markham parut. John Jarvis s'était attendu à voir quelques brunes señoritas aux cheveux couleur aile de corbeau, aux prunelles fascinatrices, au visage d'une chaude pâleur. Il fut surpris de se trouver en face d'une jeune fille au teint délicatement rosé, aux yeux d'aigle marine, aux cheveux d'un blond léger, presque couleur de paille. Miss Lillian avait 18 ans, et sa physionomie respirait la bonté avec ce je ne sais quoi d'énergique et de résolu qui caractérise les anglo-saxonnes. Tout de suite, elle s'était rendue compte de l'étonnement du détective.
« Je suis une exception dans ce pays de soleil, » expliqua-t-elle en souriant. « Ma mère était anglaise. À qui ai-je l'honneur de parler ? Mais avant tout, prenez quelques rafraîchissements. La poussière et la chaleur en font ici une nécessité. Que vous offrirai-je ?
John Jarvis accepta une citronnade glacée et se fit connaître comme un ami de M. Rabington. Le beau visage de Miss Lillian était tout à coup devenu sérieux.
« C'est terrible, cette histoire de vol !» murmura-t-elle. « J'étais si heureuse. J'avais fait de si beaux projets. »
Elle ajouta d'un ton où perçait une anxieuse curiosité.
« Y a-t-il du nouveau ? Je ne suis pas au courant du tout. Ce matin, quand mon père est parti, on ne savait rien encore. Mais j'y pense. Et c'est sans doute à mon père que vous vouliez parler. »
« Non, miss, » répondit John Jarvis, dédaignant de mentir. « C'est vous que je voulais voir. »«
À moi ? »
fit-elle extrêmement surprise.
« Oui, miss. Vous allez comprendre pourquoi. »
Rapidement, il raconta l'arrestation des deux guitaristes aveugles par le capitaine Barton et l'assassinat de Gérard Perkin. Mais il était loin de s'attendre à l'effet presque foudroyant que produisit son récit. Miss Lillian, devenue tout à coup d'une mortelle pâleur, se laissa tomber sur un siège en portant la main à son cœur. Ses yeux se fermèrent, elle se renversa légèrement en arrière en poussant un profond soupir. John Jarvis crut qu'elle allait expirer sous ses yeux. Il courut prendre une alcazaras, en versa l'eau glacée sur une serviette et tamponna doucement le front et les tempes de la jeune fille. Puis il lui fit absorber un peu de brandy. Bientôt après, elle ouvrit les yeux et respira avec force. Son évanouissement n'avait duré que quelques minutes. Une gorgée de la liqueur cordiale acheva de la faire revenir complètement à elle.
« Excusez-moi, » murmura-t-elle d'une voix faible. « Je suis très nerveuse et ce climat ne me vaut rien. »
Puis, ajouta-t-elle avec une poignante tristesse,
« ce que vous venez de m'apprendre m'a frappée en plein cœur. Je ne crains pas de le dire. J'avais engagé ma parole à M. Gérard Perkin, que je continue à considérer comme un parfait honnête homme, qu'il en réchappe et je vous jure qu'il saura bien prouver son innocence. »
Elle s'était animée en parlant. Ses joues s'étaient colorées d'un vif incarnat. Ses pâles yeux bleus lançaient des éclairs.
« Et je l'y aiderai, » poursuivit-elle ardemment. « Je vous dirai tout ce que je sais. Je n'ai rien à cacher, ni mon fiancé non plus. Pourquoi aurait-il commis ce vol ? Je suis riche, très riche du chef de ma mère. Et lui-même possède une fortune dans son pays natal en Belgique. »
« Cependant, » objecta le détective, « le sac de cuir ?
Ceux qui ont assassiné Gérard n'avaient-ils pas intérêt à le faire passer pour le voleur ? La manière même dont on a abusé de la naïveté des deux aveugles ne prouve-t-elle pas une abominable machination ?
Peut-être avez-vous raison. Mais vous m'avez promis de m'aider.
De tout mon pouvoir.
Permettez-moi donc de vous poser quelques questions. Voici ce que j'ai trouvé dans les poches du blessé. » Et le détective tendit à Miss Lillian le billet au crayon signé d'une L. La jeune fille n'y jeta qu'un coup d'œil.
« Ce billet n'est pas de moi !»
déclara-t-elle indignée.
« Mais on y a imité assez habilement mon écriture. Voilà le moyen dont on s'est servi pour attirer Gérard dans le guet-apens. L'assassin qui a tracé ses lignes attendait sa victime sur la route qui va d'ici à Presidio. »
Miss Lillian soumit au détective plusieurs spécimens de sa véritable écriture. Le faux était évident. John Jarvis réfléchit.
« Vous aviez donc rendez-vous avec M. Perkin ?» demanda-t-il. Le billet dit « Je n'ai pu venir ce soir. »
« Non, » répondit la jeune fille sans hésitation. « Mais l'auteur du billet, très au courant de mes habitudes, sans doute, devait savoir que presque chaque soir, je viens chercher mon père à la banque. Souvent, nous emmenions dîner M. Perkin au cottage. Mon père n'ignorait rien de nos projets. »
Miss Lillian était devenue silencieuse. Une douloureuse expression se peignait sur les traits de son charmant visage.
« Il faut que j'aie des nouvelles de Gérard !» s'écria-t-elle.
« Ne vous ai-je pas dit que le docteur Toribio répondait de sa vie ?»«
N'importe, le mal peut avoir empiré, puis cela coûte si peu de donner un coup de téléphone. »
Elle s'était emparée du récepteur placé sur un guéridon. Une minute après, elle avait le docteur Toribio à l'autre bout du fil. Ils échangèrent quelques phrases.
« Tout va bien, »
soupira-t-elle, tout à coup rassérénée.
L'état est stationnaire, et le docteur continue à se montrer optimiste. « Précisément, il veut vous dire un mot. »
Elle tendait le récepteur à John Jarvis, qui téléphona à son tour.
« J'ai le regret de vous quitter, » dit-il à Miss Lillian après avoir terminé. « Le docteur me demande d'urgence. » « Y aurait-il du nouveau ?»«
Peut-être. En tout cas, je vous tiendrai au courant. »
Il semblait très pressé, et même un peu ému. Rapidement, il prit congé et regagna son auto. Toute pensive, la jeune fille était encore à la même place, à la fenêtre de la véranda d'où elle l'avait vu partir, que la voiture avait depuis longtemps disparu sur la route poussiéreuse. Chapitre 3. La loi de Lynch. Floridor attendait John Jarvis à la porte de l'hôpital. Le Canadien était encore revêtu de la blouse blanche d'infirmier et semblait très agité. « À ce que vient de m'apprendre le docteur Toribio, dit le détective, l'assassin est arrêté. »«
C'est exact.
Mets-moi rapidement au courant des faits. »«
Voici. Vous aviez à peine tourné les talons qu'un camarade du blessé, un employé de la banque, s'est présenté pour demander des nouvelles de son ami Perkin et a demandé à le voir. »«
Il se nomme ?»«
Rufus Derrick, un petit hypocrite et chafouin qui m'a du premier coup paru profondément antipathique. » Il s'apitoyait d'un ton pleurard sur le malheur de son pauvre ami Gérard. Chacune de ses paroles suait la fausseté. Le seigneur Toribio voulait le mettre à la porte, mais j'avais une autre idée. Sur ma demande, le docteur laissa Derrick pénétrer dans la chambre du blessé et le laissa seul avec lui.
Ce n'était guère prudent.
C'est moi qui l'avais demandé. Vous allez voir pourquoi. Une fois qu'il s'est cru sûr de n'avoir aucun témoin de ce qu'il allait faire, il a tiré de sa poche une petite boîte remplie de pilules et en a jeté une ou deux dans la potion destinée aux blessés. Avec un sang-froid stupéfiant, il a attendu que les pilules soient fondues. Puis il a pris le verre, a empoigné son ami par le nez en lui pinçant pour lui faire ouvrir la bouche. Et il allait le forcer à boire quand je suis intervenue. Le Browning au point, car vous pensiez bien que je m'étais cachée dans la pièce voisine et que je n'avais pas perdu le drôle de vue une seule minute. Au cri de « Oh les mains !» Le bandit est devenu livide et m'a docilement obéi. En même temps qu'une grosse liasse de banknotes, j'ai trouvé dans ses poches la boîte aux pilules. Le docteur les a examinées. Elles contiennent de la brucine, un poison foudroyant, et qu'il ne laisse guère de traces.
« Je te félicite très sincèrement, » murmura John Jarvis, heureux de voir que la belle Miss Lillian avait dit la vérité et que son fiancé était innocent, très probablement.
Derrick est gardé à vue par le docteur. Il paraît très battu, mais il a refusé catégoriquement de répondre à toutes mes questions.
« J'espère que je serai plus heureux que toi, » dit le détective en souriant. « Allons voir notre homme sans tarder. J'ai idée que cette affaire nous réserve plus d'une surprise. »
Rufus Derrick était enfermé dans une chambre vide. On n'avait pas songé à le garrotter, mais le seigneur Toribio, qui lui faisait compagnie, le tenait sous la menace de son Browning, posé bien évident sur un guéridon, à côté du verre qui contenait le poison et d'une forte liasse de banknotes. Âgé d'une trentaine d'années, Rufus Derrick était petit, brun et grêle. Son teint bilieux, ses yeux jaunes, qui semblaient distiller la traîtrise et la méchanceté, inspiraient une instinctive répulsion. Quand le détective entra dans la pièce, il eut pour celui-ci le regard de rage et de haine impuissante que jette au chasseur un fauve pris au piège.
« Je ne vous dirai rien !»
cria-t-il en grinçant des dents, avant même que John Jarvis eût ouvert la bouche.
« Je suis innocent, d'ailleurs. Renseignez-vous près de tous ceux qui me connaissent, près de M. Markham. »«
Pourquoi ?» demanda sévèrement le détective. « Avez-vous voulu empoisonner M. Perkin ?»«
Je me suis trompé de pilule, » répliqua effrontément le bandit.
« C'était un remède que j'avais voulu apporter. J'ai été employé chez un pharmacien autrefois. »«
Ces mensonges sont inutiles. Je sais que vous avez commis un faux.
Votre crime est prouvé. » Et les aveugles reconnaîtront votre voix. Le mieux que vous ayez à faire est de tout dire. Monsieur Robinson, le directeur de la Mexican Mining Bank, est ici. Je vous donne ma parole que si vous lui restituez son argent, il ne portera pas plainte. D'ailleurs, ces banknotes même sont une preuve. La banque en a gardé les numéros.
Ce n'est pas vrai. On n'a pas les numéros.
Ce que vous venez de dire équivaut à un aveu.
Je n'ai rien avoué. Je suis innocent.
Monsieur Markham me défendra. L'attention de John Jarvis fut éveillée par cette insistance du bandit à se réclamer de M. Markham. Une idée lui vint.
« M. Markham vous a dénoncé, reprit-il, et il dit que vous serez lynché. Vous feriez mieux de rendre les banknotes. »
Le détective avait parlé au hasard, usant d'une ruse classique habituelle au juge d'instruction. Il fut étonné de l'effet extraordinaire
que produisirent ces quelques paroles sur Derrick. Il devint livide de fureur. Il écumait. Il battait l'air de ses bras maigres. « C'est Markham, le voleur !» s'écria-t-il d'une voix sifflante. « Ah, la crapule! Je vois son plan! Il m'accuse et il espère me faire lyncher par des gens à lui, avant que je n'aie eu le temps de parler. Maintenant, je suis fixé. Je vais tout dire, et si j'y passe, il y passera. » John Jarvis tombait de son haut. Floridor et le docteur Toribio n'étaient pas moins surpris. Directeur de la succursale de Presidio depuis de longues années, M. Markham possédait l'estime et la confiance de tous. Pourtant, Derrick avait parlé avec tant de haineuse âpreté, tant d'indignation fielleuse, que le détective fut profondément troublé. « Voici comment ça s'est passé !» redouilla Derrick, dont les mains osseuses aux ongles rongés tremblaient de colère. « Quand l'électricité s'est éteinte, j'étais à deux pas du coffre-fort. Quelqu'un m'a frôlé, que j'ai parfaitement identifié dans les ténèbres. C'était Markham. Il m'a bousculé avec une brutalité nerveuse qui n'appartient qu'à lui, que je reconnaîtrais entre mille. Puis j'ai senti comme un coup de griffe sur le dos de ma main. Dans la brusquerie de ses mouvements, Markham m'avait égratigné avec le diamant de sa bague. Tenez, j'en porte encore la trace. Je ne savais pas encore ce que cela voulait dire, mais, par curiosité, je gagnais, à la suite de Markham, le couloir qui aboutit à la petite porte, et j'entendis cette porte se refermer. De la fenêtre, je vis sur la place assez mal éclairée qui s'étend entre la banque et l'hôtel de Géorgie, Markham aller à son auto, y déposer quelque chose et se glisser ensuite avec précaution dans la salle du restaurant. « Pardon ?» interrompit Floridor. « M. Markham n'a pas quitté le restaurant. » « Seulement, » répliqua Derrick avec une ironie amère, « il est allé téléphoner. Après avoir demandé une communication quelconque pour être en règle au point de vue de l'alibi, il est sorti par la porte qui se trouve à côté de la cabine, dans un renfoncement, porte que, de la salle de restaurant, personne ne peut voir. Il est allé à la banque, il a fait son coup, et il est rentré à l'hôtel et a fini de dîner. Markham est un homme très fort. Son alibi serait excellent, si moi je ne l'avais pas vu opérer. » À ce moment, des cris tumultueux se firent entendre au dehors. Le docteur Toribio parut inquiet et eut à l'adresse de John Jarvis un coup d'œil interrogatif auquel celui-ci répondit par un imperceptible haussement d'épaules. Derrick ne s'était aperçu de rien et continuait avec une sorte de volupté haineuse le cours de ses révélations. « Je n'avais rien dit, reprit-il. J'avais fait le mort pendant l'enquête du coroner. Mais quand il se fut retiré et que Markham se disposa à monter en auto, il faisait nuit noire, je le tirai par la manche. J'ai un mot à vous dire, j'ai tout vu. Les banquenotes sont là, sous la banquette. » Et tout doucement, je lui avais mis mon Browning sous le nez. Par exemple, il m'a épaté par son sang-froid. « C'est vous que j'ai bousculé auprès du coffre-fort, a-t-il répondu. Je suis forcé de compter avec vous, mais vous êtes déjà mon complice, puisque vous n'avez rien dit. Vous faites du chantage? Comme il vous plaira. Alors voilà, je sais que vous êtes amoureux de ma fille, Miss Lillian. Je vous la donne avec 500 000 dollars de dot, mais à une condition, c'est que je n'entende plus parler de Gérard Perkin, qui aux yeux de tout le monde est le coupable. » J'étais abasourdi tellement que les bras m'ont été tombés, comme on dit. En une seconde, ce fut son Browning à lui que j'eus devant le nez. « Tout ça, c'est des promesses, » m'écriai-je dans un élan de désespoir. « Vous allez filer avec les banknotes, et... » « Si vous dites un mot de plus, je commence par vous casser la tête. Je remets solennellement et devant témoin les billets dans le coffre-fort et l'affaire est finie. Ce sera vous le voleur. » J'étais dompté. « Eh bien, soit, dis-je, je ferai ce que vous voudrez. Mais donnez-moi moi des arts. » Sans lâcher son Browning, il me remit un paquet de banknotes, le même qui est là sur la table, en me disant que j'étais un bon garçon, mais que je n'étais pas de force pour jouer avec lui. Finalement, il me lança le sac de cuir qui avait contenu les billets en me disant « Prends toujours, ça te servira. » Et il démarra en vitesse, me laissant là comme un imbécile. Dans la rue, le vacarme était devenu terrible. Des cris de « À mort l'assassin !»« La loi de Lynch !» s'entendaient distinctement. Derrick était devenu d'une pâleur mortelle. Il reprit comme avec une hâte d'en finir. « Il fallait que je fasse ce que Markham m'avait demandé. Je rentrais chez moi. Il ne fallait pas perdre de temps. Markham devait prendre le bateau à 23 heures. Et de plus, je savais que la police le guettait au bateau, à la gare et à son hôtel. Ce que la police ignorait, moi j'étais au courant, c'est que Perkin avait pris pension depuis 2 jours chez une vieille mulâtresse, la Dolorita, qui passe pour faire d'excellentes cuisines. Alors que toute la police le cherchait, il dînait tranquillement. Il y avait longtemps que j'avais mis de côté des spécimens de l'écriture de Miss Lillian, qui sert souvent de secrétaire à son père. J'attendais une occasion. L'occasion était là.
Rapidement, je fabriquai la fausse lettre de rendez-vous et le chapeau rabattu sur le nez, il faisait nuit d'ailleurs, j'allais moi-même porter le message à la Dolorita. J'avais calculé juste. 5 minutes plus tard, Gérard Perquin sortit de la maison et s'élança comme un fou sur la route. J'avais de la peine à le suivre. Je fus obligé de prendre un raccourci pour le devancer. Les clameurs de la foule massée en dehors de l'hôpital étaient devenues formidables. Rufus Derrick s'était arrêté, blême d'angoisse. « Je sais le reste, » dit le docteur Toribio. « Vous avez une maisonnette à 1 mille de Presidio. C'est là que vous avez abattu votre victime. C'est là que vous l'avez traînée. Vous avez cru que les aveugles, dont la présence inopinée vous a d'abord causé une frayeur terrible, vous aideraient à porter le corps. Vous croyez que c'était un cadavre, jusqu'au Rio del Norte. Mais les ranchers sont intervenus. Et vous aviez eu soin, naturellement, de glisser à tout événement le sac de cuir sous les vêtements du pauvre Gérard. » La nuit tombait. Au dehors, la clameur se changeait en hurlement. À la lueur d'un feu de broussaille, la silhouette des deux aveugles se profilait avec de grandes ombres menaçantes. De tous côtés, des hommes et des femmes arrivaient chargés de bidons de pétrole. D'un coup d'œil, Rufus Derrick vit tout cela.
« La loi de Lynch »
balbutia-t-il à demi-mort d'épouvante.
« Oui, j'avouerai tout ce qu'on voudra, mais protégez-moi, sauvez ma vie, je vous en supplie !» Ils vont me faire griller vivant après m'avoir arrosé de pétrole. »
Le misérable s'était jeté aux genoux de John Jarvis et lui embrassait les mains en pleurant.
« Il n'y a rien à faire, » s'écria Don Toribio. « L'hôpital est cerné et l'hôpital est bâti en planches. Ils y mettront le feu si je ne leur livre pas le prisonnier. »
« Et les ranchers ?» demanda Floridor.
« Ils ne sont pas là. D'ailleurs, le capitaine Burton n'intervient que si le coupable est intéressant. »
Derrick s'était levé et avant qu'on eût le temps de s'y opposer, il avait avalé le verre de poison.
« Ils ne mourront pas » hurla-t-il. « J'ai trop peur !»
Presque aussitôt, il roula à terre, foudroyé, à la face verdâtre. Le misérable s'était fait justice. Dans son affolement, par une contradiction dont on pourrait citer maints exemples, il venait de se suicider pour échapper au lynchage. Il avait préféré la mort par le poison aux lentes tortures du bûcher.
« J'aime autant cela, » murmura Don Toribio après le premier moment de stupeur.
« Je vais prévenir les assaillants qu'ils perdent leur temps. »«
Surtout, » lui recommanda John Jarvis, « pas un mot du rôle qu'a joué Markham dans cette affaire.
Sous prétexte de Lynch, il serait fort capable de piller la banque et d'y mettre le feu ensuite. » Le docteur sortit et revint bientôt après, suivi des deux aveugles et de 4 vaqueros qui étaient venus à constater par eux-mêmes que l'assassin était bien mort. La constatation faite, ils se retirèrent silencieusement. Quelques minutes plus tard, la foule s'était dissipée. Il ne restait plus, au milieu de la place située en face de l'hôpital, que le bûcher qui avait été destiné à Rufus Derrick et qui achevait de se consumer solitairement. John Jarvis et Floridor prirent en hâte congé du docteur Toribio, qui promit de consigner dans un rapport détaillé les aveux du défunt. Les deux détectives voulaient procéder le plus tôt possible à l'arrestation de Markham, qui, une fois démasqué, serait bien obligé de dire ce qu'il avait fait de l'argent volé. Comme ils arrivaient devant la façade brillamment illuminée de l'hôtel de Géorgie, ils aperçurent, à sa place habituelle, l'auto de Markham.
« Elle est encore là, » dit Floridor. « Nous avons de la chance. »«
Je ne vois pas de lumière à la banque. Markham doit être en train de lyncher avec M. Robinson. » Ils entrèrent dans la salle à manger de l'hôtel de Géorgie. Ils n'y trouvèrent que Robinson. Le banquier venait à peine de se lever. Peu habitué à la fatigue physique, brisé par une nuit passée en auto, il s'était couché croyant dormir que 2 ou 3 heures et son sommeil s'était prolongé pendant tout l'après-midi.
« Vous avez vu Markham ?» demanda John Jarvis, inquiet.
« Mais non, il n'est pas avec vous !» Les deux détectives échangèrent un regard. Ils avaient eu la même pensée.
« Nous sommes floués !» s'écria Floridor avec une rage contenue.
Markham a laissé sa voiture bien en évidence pour nous rassurer sur ses intentions. Et pendant que nous le croyons à la banque, il a dû passer tranquillement le Rio del Norte et se réfugier en territoire mexicain où il est bien inutile de chercher à le rattraper.
Une rapide enquête justifia les soupçons du Canadien. Dans l'après-midi, le voleur avait traversé le fleuve sur la balsa d'un Indien. Il était porteur de 2 grandes valises et accompagné d'une dame brune d'une grande beauté qui paraissait âgée d'une 30aine d'années. Au Mexique, c'est-à-dire dans un pays où il n'existe à peu près pas de police, l'indélicat banquier était maintenant en sûreté avec son butin.